Jusqu'à 5 heures, je propose qu'on lance tout de suite le débat, de façon à ce qu'on ait du temps pour faire réagir le public et le faire intervenir, et pour que l'on puisse avoir le discours de clôture de Christian Paul. Alors, je vais présenter nos différents invités. Nicolas Kantorowicz, qui est musicien, qui est notamment... qui s'occupe du groupe Sporto Cantes et également du groupe William Traffic, donc un disque qui a été très remarqué il y a quelques années, deux ans.
Il y en a un nouveau qui vient de sortir. Là.
Encore un nouveau.
Qui est bien remarqué aussi. Là.
En tout cas, qui était encensé par la critique lors de sa sortie.
Merci, la critique.
Également Benoît Wittmann, qui est donc musicien et développeur de logiciels, m'a-t-il dit, donc pour Macintosh. Jérôme Roger, donc à ma droite, directeur général de l'UPFI, l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, administrateur d'Impala, qui est sa version européenne, et qui est également directeur général de la SPPF, donc Société civile des producteurs indépendants. Enfin, tout à ma droite, Pascal Coé, qui est le porte-parole du collectif Odebi. Alors, je vois qu'il n'y a pas de titre à cette table ronde. Donc je pense qu'on va se poser la question du P2P, culture et information pour tous, et je vais vous poser la même question et vous laisser éventuellement en 5 minutes chacun, si c'est possible, de nous dire quelle est votre opinion donc, sur le sujet, sur ce que vous avez entendu et un peu de nous donner vos différentes opinions. Alors, on va peut-être commencer par Nicolas. Qu'est-ce que
je pense, ouais. Tu peux me tutoyer?
Oui. Moi, j'aime bien te vous voyer.
Ouais, tu peux me vouvoyer. On se vouvoie, Tariq, ok.
Je te vous vois.
Je vais vous répondre, Tariq.
Alors, cher ami, vous avez une longue expérience du monde de la musique, parce que vous avez vécu à la fois Excusez-moi, je vais
allez-y.
Un peu. Vous avez vécu les années 80, le punk, les révolutions musicales, la révolution FM aussi, la télévision musicale, et aujourd'hui l'Internet, et vous revenez d'ailleurs avec dans la révolution de la musique électronique, donc vous êtes aussi un exemple de groupe et de musicien qui a su s'adapter à la technologie en tant que dans son domaine musical. Quel est le regard que vous portez sur le débat actuel? Alors, évidemment, le peer-to-peer, mais également la répression, c'est un ensemble de sujets. Je vous laisse.
Bon, ben, pour le peer-to-peer, et je suis content déjà qu'il y ait un débat qui soit initié par des forces de gauche, on va le dire. Je suis pour, complètement pour, même en tant qu'artiste, parce que moi, ça ne me dérange pas que mes morceaux soient mis sur le réseau. En partage, parce que j'ai fait de la musique pour en faire profiter les gens, et j'ai pas pensé quand j'ai commencé gagner de l'argent avec. J'en ai gagné, j'en gagne un peu, rassurez-vous, je suis pas malheureusement on va dire un petit smicard de la musique, mais bon, ça suffit. Et oui, la base première, c'est de faire partager la musique. J'ai commencé à faire un groupe de rock qui venait d'une banlieue, donc c'était déjà beaucoup pour nous de faire un disque. Et le premier disque, par exemple, on l'a fait, c'était un label indépendant. J'ai pas touché d'argent, beaucoup dessus, pratiquement rien. Tout ce qui nous intéressait, nous, c'était de diffuser la musique. Donc ça n'a pas beaucoup changé maintenant. Il se trouve que cette musique est un peu achetée par la publicité. C'est un peu mon mécène, c'est ce que je dis. Bon, alors donc, je crache pas dessus. Donc pour ce qui est du peer-to-peer, moi je vois pas où est le problème en tant qu'artiste à faire partager sa musique. Et tout ce qui est dit pour moi c'est de la contre-vérité, que ça fasse perdre des ventes, etc. au major. Elle ferait mieux de regarder ce qu'elle propose aux gens et se demander pourquoi il y a moins de ventes. C'est pas à cause du peer-to-peer, c'est parce qu'ils proposent des choses qui sont peut-être pas de qualité extrême. Voilà, c'est ce que je peux dire assez vite. Voilà, c'est mon sentiment.
Alors Benoît Wittmann, quel est votre sentiment? Vous êtes également musicien, donc dans quel style vous officiez?
Alors moi je navigue du jazz au ce qu'on appelle le rock progressif, qui est un style un petit peu ancien, qui date des années 70, donc c'est pas tout jeune. J'ai quitté le monde professionnel il y a d'années pour redevenir délibérément amateur, comme un choix disons que j'ai fait ce choix pour ne plus avoir à subir, disons, les aléas du métier de musicien qui me posaient différents problèmes, disons. Et
quels étaient-ils?
Bah, disons que quand on choisit d'essayer de faire une musique non commerciale, on se heurte de plein fouet à la problématique économique des majors. Et il y a beaucoup de musiciens qui aujourd'hui sont dans des situations de blocage complet professionnel, c'est-à-dire qui ne peuvent tout simplement pas faire exister leur musique, et pour qui d'ailleurs l'Internet et le peer-to-peer en particulier représentent effectivement une opportunité intéressante. En même temps, et c'est à ça que je voulais venir, il y a un terrible manque d'informations, une peur, je crois, que je ressens très très fort chez beaucoup de musiciens. Je suis encore aujourd'hui quand même très très en contact avec pas mal de monde. Et je pense que les musiciens ont un peu tendance à s'accrocher aux branches, à s'accrocher à ce qu'ils connaissent, à avoir une perception assez corporatiste finalement de leur environnement, et à oublier peut-être un peu vite certains glissements dangereux, comme tout ce qui relève des libertés individuelles dont on a parlé déjà tout à l'heure, ou même pour ce qui les concerne plus directement, par exemple le fait que la SACEM, qui est censée défendre leurs intérêts, défend en fait avant tout l'intérêt des majors. Je crois que ça, c'est une triste réalité, souvent contre celui des musiciens, et que des musiciens, même représentés au conseil d'administration de la SACEM, qui se permettraient d'intervenir sur ce sujet, seraient probablement rapidement bâillonnés et rapidement condamnés à l'interdit professionnel pur et simple. Je crois que ça, ce sont des réalités dont on parle peu et dont il faut parler aussi, quoi. Il y a un poids professionnel des majors qui sont quand même très peu nombreuses et qui ont un poids sur la profession qui est quand même absolument gigantesque, qui fait que les musiciens ont la trouille, je crois, on ne peut pas appeler ça autrement. Les musiciens ont très peur des majors. Et les musiciens marchent un peu à la baguette. Il n'y en a pas beaucoup qui travaillent, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à vivre de leur art. Il y en a beaucoup qui vivotent ou qui vivent mal, qui gagnent vraiment des cacahuètes avec la SACEM, qui ont des perceptions finalement très, très, très craintives de toutes ces évolutions et de tout ça, quoi. Donc je crois qu'il y a quelque part un devoir d'information à faire sur le peer-to-peer, qui va peut-être au-delà de la stricte problématique technique ou légale, qui est peut-être une approche plus orienté sur la création et sur la diffusion. Finalement, pour résumer, pour conclure, hein, je vais conclure très vite, pour un musicien, il y a trois stades, en quelque sorte, dans la création. Il y a la production, la problématique de la production. Aujourd'hui, c'est très facile de produire de la musique. Hein, n'importe qui, avec un ordinateur, peut fabriquer quelque chose qui tient la route et qui a un niveau de professionnalisme absolument irréprochable. Ou enregistrer, enfin bon, etc. Ensuite, il y a la diffusion, qui est le second palier. On voit qu'avec le peer-to-peer, ça devient très facile de diffuser. Jean-Vincent, tout à l'heure, disait que... quelqu'un disait tout à l'heure, Xavier Filliol disait que tout un chacun peut devenir un exploitant de musique sur Internet. C'est pas faux. En même temps, ça ne résout pas du tout le problème du troisième stade, qui est le stade de la promotion. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se différencie, comment est-ce qu'on devient visible sur Internet ? Comment est-ce que dans un océan de musique diffusée sur Internet, ou de création en général, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on devient visible et on passe la rampe? Et c'est pas seulement un problème de qualité musicale, c'est aussi un problème de moyens de marketing, et le marketing existe aussi sur Internet, et ne peut pas être détaché de tout ça, quoi. On ne peut pas ne réfléchir que sur le peer-to-peer et s'isoler du reste, quoi. Ça fait partie d'un ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Jérôme, Roger... Vous-même, en tant que représentant des indépendants, j'aimerais vous demander comment vous réagissez face aux deux avis qui ont été exprimés. Et j'ai de manière plus large, est-ce que les indépendants ne se sont pas trompés de bouc émissaire avec le public? Est-ce que finalement, le vrai problème, on vient d'en parler, c'est pas l'accès, la promotion, le marketing qui a fait exploser le prix du disque? Est-ce que finalement, le vrai problème n'est pas là? Comment vous voyez ça, vu que vous êtes au contact des labels indépendants, assez régulièrement. Et comment, quelle perception vous sentez de leur part sur le sujet?
Oui, je crois qu'effectivement, c'est bien quand on parle de la musique enregistrée et des nouveaux modes de consommation de la part du public par rapport à ce qui est dorénavant mis à leur disposition comme canal de diffusion, c'est bien de prendre un tout petit peu de hauteur et d'essayer de voir les problématiques sur un plan de repositionnement de l'industrie du disque, de la musique. Je crois que de ce point de vue, il y a toute une série de points à énoncer. D'abord, moi j'ai le sentiment qu'Internet, une grande partie des problèmes que nous évoquons aujourd'hui, sont des problèmes économiques, des problèmes juridiques, proviennent du fait qu'Internet n'a pas été conçu à l'origine comme un canal de distribution. Et je crois qu'une grande partie des problèmes vient de là. C'est que j'ai la conviction qu'Internet a été conçu à l'origine comme un système d'accès à l'information, à des informations, et puis ensuite à des échanges d'informations. Et que tout le challenge auquel nous sommes confrontés, notamment en ce qui concerne les industries dites culturelles, c'est d'arriver à transformer ce vecteur d'exposition en un véritable canal de distribution. Donc je pense que c'est une des questions clés que nous avons à résoudre d'une façon ou d'une autre, quelles que soient les positions qu'on défend. Ensuite, pour revenir spécifiquement à l'avenir, enfin, des questions que vous posez en creux, c'est l'avenir de l'industrie du disque. Comment elle va se redéployer? Est-ce qu'elle va disparaître? Est-ce que les producteurs vont disparaître? Est-ce que le CD va disparaître? Est-ce que le support va disparaître? Comment est-ce qu'on peut aborder le peer-to-peer? Et comment les producteurs, en tout cas les indépendants, se positionnent, notamment vis-à-vis du peer-to-peer? Je crois que c'est en gros les questions que vous évoquez, si j'ai bien compris. Alors, d'abord, aujourd'hui, effectivement, quand on regarde l'industrie du disque, c'est un monde très concentré. 4 majors, hier 5, on a cherché... Vous avez rappelé que j'étais membre d'Impala, administrateur d'Impala. Nous n'avons pas ménagé nos efforts pendant 6 mois pour nous opposer devant la Commission européenne au projet de fusion entre Sony Music et BMG, parce que ça posait des problèmes d'intégration horizontale, mais aussi des problèmes d'intégration verticale. Et pour rester dans le sujet, Sony, c'est aussi Sony Connect. Et Sony Connect, au sein du groupe Sony, tente de mettre en place une stratégie d'intégration verticale qui peut être néfaste pour le consommateur, mais aussi néfaste pour les autres acteurs de l'industrie du disque. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, en vain, nous avons cherché à nous opposer au renforcement de ce processus de concentration. Cela étant, je pense qu'on a affaire à un univers qui est en plein bouleversement. Moi, je pense que les majors sont, je dis ça sans aucune démagogie, hein. J'ai horreur de la démagogie à titre personnel, qui m'amènera peut-être à prendre des positions un peu iconoclastes tout à l'heure, si j'ai le temps de rebondir sur certains sujets, qui ne plairont peut-être pas à tout le monde d'ailleurs, mais en tout cas c'est nos convictions. On est en plein bouleversement. Je pense que les majors sont déstabilisés aujourd'hui. Leur modèle économique est totalement déstabilisé. Ça ne veut pas dire que les indépendants ont échappé à cette déstabilisation, parce que ce serait mentir que de dire le contraire. Elles ont tout fait pour, pendant très longtemps, pour essayer de s'opposer à l'évolution, à des évolutions technologiques telles que le MP3. Aujourd'hui, même une entreprise comme Sony qui développe des stratégies propriétaires est en train de récupérer MP3, d'incorporer MP3 dans ses baladeurs. Ça montre l'évolution et ça montre le temps qui a été perdu. Elles se sont arc-boutées sur un modèle de distribution traditionnelle parce que les majors sont producteurs, mais c'est d'abord des distributeurs. Et donc, la rente de situation qu'elles avaient pendant des décennies risquait de leur échapper. Et donc, ça posait des problèmes, évidemment, que je comprends de leur point de vue, mais qu'on n'est pas obligé de partager. Elles ont ensuite, quand elles ont réalisé que Internet était en train de prendre consistance, elles ont essayé de domestiquer cet outil à leur profit en défendant, on l'a vu avec Pressplay MusicNet en 2000-2001, en essayant de développer des pratiques d'intégration verticale, donc de dominer la toile dans le domaine de la musique. Dieu merci, ça a été un échec, parce que le métier, la compétence de disquaire en ligne, de disquaire tout court, ne s'improvise pas, et ça a été un total échec parce qu'elles n'ont pas réussi à maîtriser toute l'ingénierie qui consiste à proposer une offre intelligente auprès du consommateur. Et aujourd'hui, on est revenu à des schémas, je dirais, plus traditionnels, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que, enfin, plus traditionnels, oui et non, hein, je nuance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché est en train de s'organiser, pour ce qui concerne le marché légal et payant, j'entends, on va parler du peer-to-peer après, pour ce qui concerne du marché légal payant, sécurisé, en quelque sorte l'anti-peer-to-peer, si je puis dire, ou le versus du peer-to-peer, parce qu'effectivement le débat s'organise, à mon avis, de façon beaucoup trop manichéenne, entre d'un côté un modèle, on va dire, DRM, qui est basé sur l'économie du DRM, et donc c'est l'économie du légal, du payant et du sécurisé, versus l'économie du peer-to-peer, ou une éventuelle, c'est des questions qu'on va évoquer, y a-t-il une économie possible pour le peer-to-peer? Je crois que c'est un des enjeux que Tariq connaît bien, et c'est une, je la pose sous forme de question, parce que je n'ai pas de réponse, mais je ne veux pas être malhonnête intellectuellement pour dire qu'il n'y a pas d'économie possible pour le peer-to-peer, donc je n'en sais rien, c'est une question qu'on doit débattre, dont on doit débattre. Et donc, aujourd'hui, en ce qui concerne l'économie légale, elle s'organise autour des acteurs traditionnels d'un côté, c'est l'offre de la FNAC Musique, j'étais à la conférence de la FNAC avant-hier, qui ont lancé leur, leur système de musique en ligne, c'est l'offre de Virgin Mega, etc., etc. Et puis, il y a eu l'intrusion, je dirais d'abord, il y a eu l'intrusion de nouveaux entrants qui ont, sont pas posé 36 000 questions, qui ont fait une analyse stratégique de comment se positionner sur un produit d'appel que pouvait être la musique. Ils ont très vite compris les stratégies, l'intérêt d'avoir des stratégies d'intégration entre le hard et un produit que peut être la musique et peut-être demain le cinéma, dans une moindre mesure à mon avis. Et donc, ils se sont très rapidement, ils ont très rapidement développé des offres vis-à-vis du consommateur avec, je dirais, une triple promesse qui semble être retenue jusqu'à présent, en tout cas c'est le cas de Paris d'iTunes, c'est une offre extrêmement exhaustive, parce que pour motiver le consommateur, il faut avoir beaucoup de catalogues pour être compétitif, vis-à-vis de l'offre illégale. Il faut un pricing, une rémunération qui soit attractive, donc qui soit la plus basse possible, et il faut un système qui soit le plus ergonomique, qui soit le plus simple d'accès pour le consommateur, là aussi pour être compétitif, notamment avec le peer-to-peer. Et c'est une stratégie qui est gagnante, semble être gagnante à court terme. On verra à long terme, quand Apple aura épuisé son stock de iPod, je ne sais pas si Apple, à terme, sera toujours motivé par la musique.
Alors, j'ai juste pour rebondir sur ce sujet, en fait, j'ai un peu envie de manière un peu innocente, mais pas totalement, envie de vous poser la question suivante, c'est qu'est-ce qui vous différencie? On a vu récemment les artistes s'associer avec les consommateurs, se rapprocher des consommateurs pour réfléchir ensemble. Moi, je sais une chose, c'est que musique indépendante, elle a un public très fidèle, des gens qui achètent, qui sont du côté de la musique indépendante, qui seront prêts à les soutenir, qui seront prêts, et je sais que j'en fais partie, beaucoup de gens ici en font partie, seront prêts à les soutenir s'ils ont des difficultés. J'aurais un peu envie de vous poser la question, qu'est-ce qui, pour l'instant, empêche que vous fassiez le pas, que vous rapprochiez de votre public, des artistes, des positions des artistes, des positions des consommateurs? Qu'est-ce qui fait que finalement, on ne peut pas avoir, dans cette logique de diversité culturelle, dans cette logique de trouver ensemble des moyens économiques, vous avez tout à fait raison, l'économie du peer-to-peer avec un point d'interrogation, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle n'existe pas. Qu'est-ce qui pourrait faire, quel serait le facteur qui permettrait ce rapprochement qui jusqu'à présent, qui devrait exister, qui jusqu'à présent n'a pas encore, je dirais, fait le pas avec tous ces gens-là qui finalement défendent d'une manière ou d'une autre l'indépendance de la culture et donc, sous sa forme industrielle, mais pas que ça, les indépendants de la musique. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en fait?
Je crois que ma réponse va être très lapidaire. Je la résumerai sous la formule suivante. Nous sommes opposés à la fois au tout répressif et au tout libertaire. C'est un peu la stratégie du Nini. Nous avons envie de dire non au tout répressif d'un côté, à la logique du tout répressif, et de l'autre côté, non à un état d'esprit ou un discours pseudo-libertaire qui ne nous convient pas et qui nous pose toute une série de difficultés. Alors ça demanderait tout petit peu de développement, je ne vais pas monopoliser la parole, mais peut-être en quelques mots, non tout répressif. Je crois qu'aujourd'hui, je ne peux faire de procès d'intention à personne, je ne dirais pas plus aux majors qu'à certains. Je crois que personne aujourd'hui en France n'est véritablement animé, à mon avis, d'une logique de tout répressif, y compris les majors. Je ne veux pas m'exprimer à leur place, elles ont des canaux propres pour s'exprimer et elles le font. Je crois qu'on ne peut pas faire de procès d'intention à 100% en major. Je crois que leur objectif, ce n'est pas de mettre un gendarme ou un policier derrière chaque personne. En tout cas, ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Je pense que la répression, c'est simplement une façon de dire quand une ligne jaune est franchie, et notre code de la route à nous, c'est le code de la propriété intellectuelle, eh bien, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes aux titulaires de droit, ça pose des problèmes économiques, d'ordre financier, même si nous faisons partie de ceux qui considérons que le peer-to-peer est loin d'être l'une des causes principales de la crise du disque. Je crois qu'on s'est exprimé très clairement sur ce sujet. Patrick Zelny, quand il était président du PFI, et ça lui était amèrement reproché par des patrons de maisons de disques comme Pascal Nègre, qui lui disait « Arrête de dire que la crise du disque est imputable également à la crise de l'offre, parce que c'était notre légitimité de considérer que des facteurs de la crise, c'était celui-là. » Alors, non au discours pseudo-libertaire, je crois que là, on ne se reconnaît pas dans l'alliance qui a été évoquée tout à l'heure, notamment par Jean-Vincent, c'est que nous considérons, pour des raisons que j'évoquerai peut-être tout à l'heure, c'est la réponse que certains prétendent apporter à, en termes de compensation, en tout cas, à l'hémorragie que subit la filière musicale en termes de revenus, en instaurant un mécanisme de licence légale ou un mécanisme comparable, pose toute une série de problèmes. Donc la tentation de la licence légale, c'est-à-dire ce que j'appelle la tentation de la licence légale, c'est la prétention ou la faiblesse de penser qu'en instaurant une licence légale, un système de licence légale, on va permettre de compenser une perte de revenus pour l'ensemble des ayants droit, et en organisant un système de libre-échange des fichiers dans le cadre du peer-to-peer, c'est une solution à laquelle nous sommes opposés. J'expliquerai tout à l'heure peut-être les raisons pour lesquelles c'est une mauvaise solution par rapport à un véritable problème que nous devons régler d'une façon ou d'une autre. Donc en résumé, non tout répressif, non tout libertaire. Donc nous voulons un point d'équilibre entre les deux. Donc j'ai envie de dire que nous ne nous reconnaissons pas systématiquement dans le discours des majors, dans ce qu'il a d'excessif. Inversement, nous ne pouvons pas nous reconnaître dans le discours d'un certain nombre d'acteurs, dont beaucoup sont présents ici, et j'assume mes responsabilités, dans un esprit, un discours qui consiste à refuser tout mode organisé ou tout mode de contractualisation des échanges, des flux économiques. Et ça, évidemment, en tant que producteur, qu'on soit indépendant ou pas indépendant, ça nous pose toute une série de problèmes.
Très bien. Pascal, Coé, donc Théo Débit, quelle est votre analyse un peu de tout ça en tant que représentant d'une association d'internet?
Ok, alors déjà je remercie Christian Paul d'organiser un débat qui est nécessaire, indispensable. Je pense que ces débats devront même d'ailleurs s'élargir. Je voudrais rebondir sur une petite phrase de Jean-Vincent tout à l'heure, ça tombe très bien parce que moi je ne voulais pas parler de modèle économique, hein. Vous comprenez bien que les internautes n'ont pas franchement vocation à proposer des solutions à Universal Music. Moi j'ai parlé quand même de quelque chose d'assez central en fait, c'est la relation qu'il y a entre le public et son artiste, il ne faut pas rêver. Quel que soit le modèle économique, si cette relation entre le public et l'artiste est mise à mal pour différentes raisons, ça ne pourra pas tenir la route. Donc c'est vraiment cette notion d'acceptabilité. Une précision tout de même, donc si je suis président de la Ligue au débit, je suis aussi membre de la Fédération Informatique et Liberté. Et donc Jean-Vincent, quand vous dites ne pas rentrer dans le débat sociétal, ben, le lien avec la notion d'acceptabilité de tel ou tel modèle, il est direct. Il se trouve, ça c'est un fait, et pour ça il va vous falloir comprendre que vous êtes loin d'avoir le soutien des internautes, vous vous êtes même mis toute l'internité sur le dos, en faisant partie d'un lobby qui a demandé, je suis désolé, j'ai pas amené mon marteau et mon burin, mais des lois totalitaires. Vous faites partie encore aujourd'hui d'un lobby qui a demandé des lois qui mènent droit au totalitarisme numérique. C'est clair. Donc, aujourd'hui...
Vous pouvez juste passer par rapport à quelle loi ?
Donc, tout le monde aura compris qu'il s'agissait de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Je pense que Christophe a fait un excellent résumé tout à l'heure. Le lobby dont vous faites partie a demandé la privatisation de la justice, la privatisation des opérations de police, a proposé le filtrage aux frontières qu'on trouve dans les pays joyeux comme la Chine, la Birmanie. Vous avez demandé la levée du caractère de correspondance privée du mail. Ça, c'est des faits. Comment voulez-vous avoir le soutien des internautes tant que vous restez dans ce flou, dans ce non-positionnement? Que font les artistes? Un artiste, ça ne s'intéresse pas aux droits et aux libertés fondamentales?
Je voudrais peut-être aussi quand même laisser Jean-Vincent répondre juste après. Il faut quand même préciser, parce qu'on n'est pas une double lecture, on joue carte sur table, ce que vous reprochez à la DAMI, c'est d'être membre, d'être membre d'une association qui s'appelle le CLIC, comité de la liaison.
J'en fais partie aussi, voilà, j'assume les positions du CLIC.
Donc, voilà. Jean, peut-être que...
Ouais, enfin, je crois que comme tout le monde, je suis un peu surpris, mais... deux réponses. La première, donc, la DAMI et les autres organisations d'artistes et les autres membres de l'alliance entre organisations représentatives des artistes et organisations représentatives des consommateurs et des unions familiales ne se sont absolument pas associés à ceux, et notamment le SNEP, qui, entre parenthèses, ça n'a pas été dit, assure le secrétariat du CLIC, ont poussé dans ce sens-là. Donc non, c'est faux. Deuxièmement, je ne vais pas, lors d'une réunion, même si je pense qu'ici, on a envie vraiment d'échanger librement des idées, mais je ne vais pas, lors de cette réunion, expliquer exactement comment fonctionne le CLIC et pourquoi la DAMI y est encore. Mais ceci dit, c'est évident, ça a déjà été exprimé aujourd'hui par d'autres que moi, que nous y sommes mal, j'ai même envie de dire malheureux, et que toute la problématique, c'est de savoir si on pratique la politique de la chaise vide ou si on essaye de continuer à dialoguer. Voilà. Maintenant, sur des choses très très concrètes comme celles que vous avez évoquées, ce que vous avez dit est faux, je suis désolé, je le dis absolument sans animosité ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment faux. Par contre... ce qui serait intéressant, et c'est pour ça, c'est important ce qu'on a créé, cette alliance avec les organisations représentant, notamment les unions familiales, hein, il y a les internautes dedans, c'est de voir s'il y a acceptabilité de ces propositions tendant à ce que dans ce que le public paye aux fournisseurs d'accès, et il paye quand même très cher, il y ait quelque chose, je ne sais pas de quel ordre, mais quelque chose qui puisse revenir à la création. Et c'est une question. On n'a aucune assurance, on ne sait même pas de quel ordre peut se situer cette participation, ce paiement allant vers la création. Mais c'est bien ça la question.
Voilà. Ok, juste une précision, on n'a pas bien compris ce qui était faux dans ce que j'ai dit. Vous pourriez le préciser, s'il vous plaît ?
Enfin, je pense que beaucoup ont compris ici. Hein. La tendance répressive sur une extension de la justice privée, par exemple, la tendance répressive sur une extension de la capacité de faire des fichiers sur des données personnelles, etc., etc. Vous ne trouverez jamais, absolument jamais, dans les positions exprimées par les membres de l'Alliance, dont la DAMI, quoi que ce soit qui aille dans ce sens-là. Par ailleurs, je vous signale que vous trouverez aussi difficilement des documents du CLIC qui aillent dans ce sens-là, puisque le CLIC, en principe, fonctionne sur l'unanimité.
Je voulais simplement rebondir un peu sur ce qu'avait dit Jérôme par rapport à la propriété intellectuelle. Je vais donner un petit exemple, je vais être très très bref. Le groupe Franz Ferdinand, qui a eu son album en téléchargement même avant qu'il soit sorti dans le commerce et voire très peu de temps après pour l'album complet, a quand même vendu plus d'1,5 million d'albums, et je pense pas que c'est le téléchargement qui l'a empêché de vendre. Je pense pas qu'à cause du téléchargement il ait vendu 3 millions d'albums. Il n'est pas vendu 3 millions d'albums. Vous me suivez? Ça l'a pas. Je pense qu'il devait vendre 1 million d'albums, plus d'un million d'albums, je pense 1,5 million d'albums. Il les a vendus et le reste, le téléchargement, c'est un autre monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quoi.
J'ai envie de dire aujourd'hui que, là ça va peut-être un peu provocateur, j'ai la conviction, hein, je n'ai aucune preuve, hein, j'ai la conviction, et c'est un débat d'ailleurs qu'on a au sein du PFI, éventuellement en termes de campagne de communication, que l'abus de copie privée, je ne dis pas la copie privée, hein, l'abus de copie privée, c'est-à-dire vous faites une copie, deux copies, trois copies, il n'y a pas de limite dans la loi, mais on connaît la définition légale de la copie privée.
On a eu le même problème avec la cassette.
La non, je ne suis pas contre la copie privée. Nous sommes pour la copie, nous sommes contre la piraterie, pour résumer. Donc
oui,
c'est très simple.
La piraterie, c'est vendre, c'est pirater 500 albums et les vendre sur le marché. Voilà, c'est ça la piraterie.
Je termine mon propos. J'ai la conviction, et nous avons beaucoup, sommes nombreux à partager la conviction, que l'abus de copie de la part d'un certain nombre de personnes le fait de copier 20, 30 albums, on n'est plus dans la copie privée, pour être clair, d'un même album, de le vendre dans des réseaux, et a probablement un effet plus négatif que le pire tout.
C'est pas la majorité des internautes qui font ça, Jérôme. Hein.
Je parle pas d'Internet, je parle de...
Alors on est dans deux problématiques différentes, là.
Pas d'amalgame entre le nombre de copies et la revente. La revente, effectivement, ça devient de la contrefaçon.
Oh, ouais.
Donc, pas d'amalgame. Hein. Et deuxième chose, ben, c'est bien simple. Si vous voulez limiter le nombre de copies, on va limiter la redevance, c'est tout.
Préciser, c'est-à-dire, est-ce que... Parce que j'aimerais que... Bon, évidemment, ici, pour que le débat prenne une tournure intéressante. Oui, j'aimerais juste rappeler que Jérôme donc, représente... certain nombre de labels indépendants, mais pas
lesquels
tous.
Moi, je les connais pas.
Mais pas tous. Bah, notamment
on
votre...
Le catalogue, on est dessus.
Oui,
on est avec vous, Babou. Enchanté.
Que Jean représente un certain nombre d'artistes qui sont à la DAMI et qu'effectivement, vous représentez un certain nombre d'internautes, mais pas tous non plus. Donc, ce sont des positions qu'il faut avoir sur le débat, évidemment. Donc... d'après ce que j'ai lu, vous êtes plutôt pour une limitation, voire diminution, peut-être une disparition de la copie privée. Quelle est votre position exactement là-dessus? Parce que vous dites, s'il faut limiter les copies, il faut limiter la redevance. C'est quoi le...
Non, mais il faut être clair. Aujourd'hui, on préjuge en fait de ce qu'ont faire les gens avec la copie privée. On va dire oui, on va dégrader la qualité, on va limiter le nombre de copies. Comment un nouveau modèle, une nouvelle licence pourrait être crédible à partir du moment où on a déjà une redevance qui existe avec une copie privée qui est assurée? Et puis de tous les côtés, ce qui tombe en pratique, c'est une limitation. Donc on a des problèmes d'interopérabilité, on n'a encore pas beaucoup parlé. On achète quelque chose, on est parfaitement de bonne foi, et puis on peut même pas le copier. Il y a un petit problème quand même. On a vu le lancement de Fnac Musique. Les gens achètent en ligne de la musique sur Fnac Musique. Ils peuvent même pas le lire sur leur baladeur iPod sur lequel ils ont payé une redevance. À quoi sert la redevance dans ce cas-là? Voilà. Donc comment est-ce qu'un nouveau modèle peut être crédible si l'actuel, on le remet pas à plat et que déjà, on le rend un peu plus crédible? Alors on a bien compris qu'il y avait des conflits d'intérêts entre les artistes et puis les producteurs et puis entre les modèles 50-50 et les droits contractuels. Bon, c'était... D'accord, mais au total, en fait, les utilisateurs se retrouvent un petit peu otages de cette guéguerre interne. On n'est pas concerné. Nous, on dit simplement aujourd'hui, une redevance, il y en a déjà une. Il faudrait peut-être voir à ce qu'on puisse avoir ce pourquoi on paye. Alors déjà qu'on fasse le ménage sur ce qui se passe aujourd'hui, qu'on règle les problèmes de l'interopérabilité et qu'on ne nous colle pas des DRM dans tous les sens, et ensuite on pourra peut-être voir quelque chose d'un peu crédible. Mais aujourd'hui il faut mettre à plat cette chose-là. L'interopérabilité, c'est quelque chose qui est absolument indispensable aujourd'hui. Sinon ça change en fait la redevance en racket légal. J'achète quelque chose, je paye une redevance sur mon baladeur et je peux pas l'avoir. C'est un racket, je suis désolé.
Je voulais juste... continuer, mais c'est vrai qu'on a eu trois nouveaux termes cette année. On a eu la substituabilité, ce qui veut rien dire, l'interopérabilité, qui veut à mon avis également rien dire. Je parle de compatibilité. Un baladeur est compatible MP3 ou il l'est pas. Donc un système DRM de toute façon ne marche pas sur un baladeur MP3, c'est une évidence. Donc l'interopérabilité, après, c'est un mot pour les gens qui veulent faire du conseil autour des transferts de DRM. Et on a maintenant l'acceptabilité. Donc, je cherche un quatrième mot en IT, si vous avez, pour qu'on puisse faire le... Voilà. Alors, j'aimerais juste qu'on revienne un instant dans le débat plus musical. Et j'ai une question à vous poser, tous les deux, en tant qu'artistes. Est-ce que le disque reste toujours important pour vous, selon vous, dans la... est-ce que ça reste un produit important en tant que musicien, on est musicien, est-ce qu'on est obligé de sortir un disque? Est-ce que vous pensez que les artistes, les producteurs et auteurs-compositeurs vont pouvoir directement distribuer leur musique en ligne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les... Vous parliez tout à l'heure d'une certaine peur des artistes. Elle est liée aussi au fait que le support qui définit leur statut de disque est en train de disparaître.
Je... Oui, ça me semble évident. Je pense même, pour raccrocher ça à ce qui se disait juste avant, que, par rapport à ce que disait Jean sur la copie privée, que à terme, l'Internet accélérant de plus en plus, on va aller vers encore plus de dématérialisation, et qu'à terme, on écoutera la musique, que ce soit sur un baladeur, que ce soit dans un téléphone, que ce soit sur un implant cortical, que sais-je, directement depuis l'Internet. C'est-à-dire que la notion même de fixation sur un support disparaîtra. Donc, on n'y est pas aujourd'hui, hein, soyons clairs, le CD n'est pas mort, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Le CD n'est pas mort et il a même probablement beau jour devant lui encore, ne serait-ce qu'à cause de la dégradation de qualité que produisent les compressions, et qui est quand même aussi un véritable problème. On vend quand même aujourd'hui de la musique dégradée, hein, ça il faut le savoir. Les musiques qu'on trouve sur iTunes aujourd'hui, c'est vraiment pas terrible quand même, hein, quand on les compare au CD. Donc, si le téléchargement disparaît, si la notion de téléchargement disparaît au profit simplement de la notion d'écoute en ligne, la notion même de copie privée disparaît aussi d'une certaine manière. On n'en est plus là, mais on en est presque là. Regarde par exemple le pay-per-view que certaines chaînes commencent à pratiquer, on y est presque quand même. Hein, c'est une réalité aussi.
Oui, mais
il y a déjà des modèles économiques qui commencent à exister par rapport à ça et qui se profilent, qui se dessinent un petit peu. Donc on ne peut pas les évacuer comme ça de la discussion et de la réflexion. C'est pour ça que tout ce que disait Jean tout à l'heure sur le fait que téléchargement égale fixation sur support égale copie privée, moi j'en suis pas si sûr.
Bon,
déjà, voilà. Donc,
voilà. On évolue et que finalement cette idée de basculement dans les réseaux et les échanges, c'est un peu au fur et à mesure, la baisse du support en aidant, il va falloir trouver pour exercer la copie privée. Cette copie privée dans un autre espace, tu voulais réagir ?
Non, moi, je voulais dire que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le CD, on en a besoin pour la visibilité. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre tout de suite... Non, mais tu vas pas arriver, tu t'appelles monsieur, je sais pas, tu vas dire un nom de couple, j'en sais rien, moi, les Schmolduc, tu vas arriver sur Internet comme ça. Non, moi, je pense, hein, il y a un palier. Alors, peut-être qu'il va disparaître, j'en sais rien, pour l'instant, on en est encore là. Moi, quand je fais un CD... j'étais connu parce que j'ai fait un CD avant, je ne suis pas arrivé sur le net comme ça. Je veux dire, et tout ce qui est arrivé sur le peer-to-peer est la majorité sortie en CD avant. C'est un CD qui a été, on va dire, craqué et qui a été mis à la disposition des gens qui n'avaient pas envie de l'acheter, qui avaient envie de l'écouter avant de l'acheter, voire de l'écouter autrement. Après, ils vont l'acheter, ils ne vont pas l'acheter, ils l'aiment ou ils ne l'aiment pas. Ce sont deux choses différentes. Mais on a encore besoin du CD pour une espèce de... pour moi, une visibilité. Surtout que bon, je travaille avec les disques et j'achète aussi du vinyle. Donc voilà, on est loin de la disparition du vinyle de toute façon. On s'en sert dans les boîtes.
Si la FNAC ou des gens comme ça te disaient on va vous signer, on vous met directement en ligne sans passer par la case 10.
Ah bah là c'est différent. Après on signe les contrats. Oui. Mais bon, moi je leur dirais une clause. Vous ne faites pas de CD, mais vous me faites au moins 1000 vinyles, minimum.
D'accord.
C'est tout. C'est pas plus compliqué, il faut discuter. Après que ça soit en ligne, tant pis. Mais il ne faut pas que ça soit en ligne payante, comme il dit, c'est une dégradation. Je préfère le peer-to-peer à la musique en ligne. Ça n'a rien à voir. Et en plus, le fonds de catalogue n'est pas le même. Moi, est-ce que iTunes va me donner le premier 45 tours de Subway Sect ? Non. Le peer-to-peer, oui. Voilà, c'est tout.
Continuez, vous avez des annonces iconoclastes, vous m'avez dit, à faire, on va peut-être...
Sur la question de la coexistence ou pas entre le CD, donc le support, et la musique dématérialisée, bon, moi je ne crois pas une seconde à la disparition du CD. C'est un support qui est encore, notamment pour ce qui concerne les albums, pour les formats longs, qui a de beaux jours devant lui, comme ça a été dit. Je crois à une coexistence pacifique, entre guillemets, entre le CD et la consommation de musique dématérialisée. Et pour ce qui concerne cette dernière, ma conviction, en tout cas celle de beaucoup d'analystes, on peut tous se tromper parce qu'aujourd'hui on n'est pas sur des modèles économiques encore très stables, loin s'en faut, même s'il y a un début, je crois que quand même le Big Bang de l'année 2003 avec le démarrage en fanfare d'iTunes, c'est que chacun a de nouveau cru, enfin, à la possibilité de l'émergence d'un modèle économique malgré le peer-to-peer. Moi, sur le long terme, je dis sur le long terme, je crois que le downloading, c'est-à-dire le téléchargement, là je parle du téléchargement payant, hein, est un modèle temporaire, c'est-à-dire c'est un modèle qui va, c'est le modèle économique qui prévaut, que ce soit le téléchargement unitaire ou le téléchargement d'albums, 10, 12 titres, peu importe, mais qu'à terme, nous sommes dans l'âge de l'accès, hein, comme a dit Jérémy Rifkin, ça a bien été décrit dans cet ouvrage, et ça a été repris par de nombreux analystes. Dès l'instant, l'âge de l'accès, ça signifie que vous avez accès à des biens qui peuvent être des biens dématérialisés dans un système qui ressemble plus ou moins à une location, c'est-à-dire à un usage, qui obéit une logique d'usage. À partir du moment où vous avez, dans le domaine de la musique, du disque, accès au jukebox, un jukebox qui, virtuel, qui
inclut, le jukebox céleste.
C'est le jukebox céleste, et l'image est très bonne, que vous payez un abonnement. Alors ça peut poser des problèmes ensuite en termes de partage, mais ça c'est un débat qui est un petit peu plus complexe qu'on ne peut que survoler à ce stade. Là je parle en termes d'évolution des consommations. Ma conviction c'est qu'à terme, on va aller vers un système de consommation qui s'apparentera à des systèmes d'abonnement ou de location via le streaming, ce qui reposera effectivement la problématique de la copie, mais de façon beaucoup plus sereine. C'est-à-dire que la pétence, le besoin du consommateur, de l'internaute, de copier pour copier ou de stocker pour stocker sur son disque dur et d'avoir cette espèce de boulimie de... d'addiction. Je me place sur un plan sociologique à ce stade. Hein. Auditeur, on sera... ça va repositionner la problématique de la copie privée et de tous les débats juridiques que nous avons. Mais là, c'est la prospective à très long terme. Nous n'y sommes pas encore.
D'accord. Donc, pour vous, la solution à long terme, c'est la location. Je suis malheureusement désolé.
C'est
parce
un
que
modèle.
Un des modèles. Je suis désolé parce qu'effectivement, on est pris par le temps. Et Ludovic, pardon, tu me disais que nous devons arrêter à moins le quart. On a eu 5 minutes de retard. J'en suis désolé. Je vais laisser... Absolument, absolument. Ce débat est loin d'être terminé.
Merci à Tariq d'avoir animé, je crois, un peu au pied levé cette dernière table ronde. Et puis, un immense merci aussi à tous ceux qui sont venus débattre aujourd'hui. Bon, je crois que la synthèse serait impossible, enfin même le résumé de cette journée, la synthèse des points de vue peut-être encore plus après le dernier échange. Moi je voudrais simplement, pour conclure cette journée qui vient après d'autres et sans doute avant d'autres débats nombreux, peut-être simplement partager avec vous quelques réflexions sur un débat qui dure en France depuis 2 ans, depuis... 4 ou 5 ans aux États-Unis, je dirais pour faire vite, de Napster à Casa, et un débat qui, chaque mois qui passe, devient un peu plus incandescent dans notre pays, en particulier chaque fois qu'il vient dans les enceintes parlementaires, où, comme ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, la propension à commettre un certain nombre de dégâts paraît tout à fait inquiétante. Et c'est pour ça, je crois, que nombreux... citoyens, organisés ou non, aujourd'hui se pose la question de savoir comment on peut arriver à mettre sur les bons rails une discussion qui, bien sûr, doit tenter de concilier des intérêts difficilement conciliables au départ, mais où, au fond, le débat politique, c'est à cela que ça sert, c'est on part d'intérêts particuliers, on essaye de construire un cadre pour l'intérêt général. À la Fondation Les Temps Nouveaux, on a commencé il y a un an à peu près à discuter de ces questions en cherchant au départ à voir quels étaient les impacts de la révolution numérique sur l'ensemble des usages culturels, du côté des créateurs, mais aussi bien sûr du côté des auditeurs, ou tous ceux qui partagent ces œuvres. Et puis, après les derniers mois de débats publics, Christophe Espern l'a rappelé tout à l'heure, on a eu le sentiment qu'il fallait véritablement changer la voilure ou changer de braquet. En effet, on a senti qu'il fallait passer un peu de ce que nous avions voulu, avec un certain nombre d'entre vous d'ailleurs, au départ, une sorte de laboratoire d'idées autour de ces questions, passer véritablement le cap et aller vers une participation à cette bataille politique, plein sens du terme, dans lequel s'engage fortement un certain nombre de professionnels, dont certains sont très organisés dans les organismes qui les représentent plus ou moins bien, on l'a vu aujourd'hui. Une bataille dans laquelle s'engage aujourd'hui, et j'en suis heureux, une alliance qui veut regrouper des artistes, des consommateurs avec tous les guillemets, des internautes également. Et c'est pour ça, je le dis aussi au porte-parole de la Ligue au débit, pour ma part, je privilégie plus aujourd'hui, c'est vrai, ce qui rassemble que ce qui oppose. Pourquoi ? Parce que en face, plutôt le camp d'en face, caricaturer un peu les choses, est quand même très organisé. Et si on veut que se crée véritablement un débat public autour de ces questions, et nous en savons la difficulté, nous savons aussi tous le caractère sensible de ce débat, et je le dis aux représentants des producteurs indépendants, je crois qu'on entend bien aussi la diversité des messages qui se sont exprimés aujourd'hui. Il est important quand même que cette coalition se crée, l'alliance en est un élément, je crois, tout à fait nouveau et très positif. Les rapports de force sont en train de s'inverser. Et c'était utile qu'on essaye de construire une riposte. Pourquoi ? Parce que, au-delà de tout ce qui s'est dit aujourd'hui dans cette salle, où au fond, il y a quand même une certaine idée dominante, il se passe plein de choses à l'extérieur. Il se passe des choses dans l'hémicycle du Parlement, il se passe des choses au sein des ministères quand on impose, on négocie avec les fournisseurs d'accès des chartes répressives. Il y a une croisade qui est aujourd'hui engagée, dont l'objectif explicite, c'est de mettre en place un carcan répressif sur l'Internet. Ça s'est joué au moment de la loi dite de confiance dans l'économie numérique, qui est quand même devenue loi de méfiance à l'égard des internautes, à travers les 18 mois de débat. Ça s'est vu au moment de la réforme de la loi Informatique et Liberté, qui est devenue plutôt une loi de surveillance du réseau. Et je dois dire pour ma part que de constater que c'est un parlementaire, et je le dirais avec la même vigueur si c'est un parlementaire socialiste, qui est aujourd'hui président d'une autorité administrative indépendante, ça me paraît être une totale confusion institutionnelle, et je crois qu'il faut aussi le dénoncer comme cela a été fait. Donc il y a une croisade qui se déploie. Cette croisade, non seulement je crois qu'elle est infantile, parce qu'elle amalgame, effectivement, dans le même mouvement et dans la même confusion également, la contrefaçon que vous dénoncez justement, qui est un système mafieux ou semi-mafieux quand il est à grande échelle, ou qui est simplement un petit business néanmoins portant atteinte aux intérêts des créateurs quand il est à plus faible échelle. Donc on amalgame en effet ce qui relève de la contrefaçon avec ce qui relève d'autres usages sur lesquels il doit y avoir débat, et c'est ce que nous souhaitons provoquer, des échanges dont, pour ma part, je souhaite la légalisation explicite. Et donc, en procédant à cette confusion, à cet amalgame à travers le terme de piraterie, hein, je reprends, je vais laisser à ma table l'article de l'actuel ministre de la Culture qui dit dans un article du Monde, merci Ludovic, qui n'est pas très ancien puisqu'il date du 19 juin de cette année, la piraterie sur Internet, crime contre l'esprit. Lutter contre la piraterie, c'est assurer les conditions de survie des auteurs, des artistes, des interprètes et des œuvres. Bon, après un an de conflit sur l'intermittence, ça pourrait faire sourire si le sujet n'était pas grave. Voilà, me semble-t-il, contre quelle vision aujourd'hui nous devons très clairement nous insurger. Et nous insurger, ça ne veut pas dire, encore une fois, oublier la réalité d'un secteur de l'économie, ne pas oublier non plus ce que sont les conditions de la création. Et c'est vrai que peut-être que dans le dosage entre utopie créatrice et utopie créatrice d'un côté, et puis confrontation avec la réalité. Je ne fais peut-être pas tout à fait le même dosage qu'Alain Lipiette ce matin. Je crois qu'il faut aussi se confronter à la réalité de ce que sont, de ce qu'est aujourd'hui le marché de la musique. On ne peut pas d'un revers de main faire abstraction de ces réalités, mais pour autant nous devons, me semble-t-il, nous donner un objectif politique et citoyen très clair, qui est celui de la légalisation du peer-to-peer, dès lors bien sûr que par la confrontation des intérêts, la négociation, on aurait pu faire apparaître des formes alternatives de rémunération. Et bon, je ne suis pas un avocat de la DAMI, il y en a d'excellents dans cette salle, mais j'ai trouvé qu'il était plutôt courageux, il y a quelques mois, à un moment où vraiment le conformisme le plus archaïque et la volonté de verrouillage la plus totale s'exerçait, j'ai trouvé qu'il était plutôt courageux qu'une société de droit d'abord comprennent quels étaient l'intérêt de ces mandants, et ensuite rompent peut-être l'omerta qui existait sur ces questions pour véritablement nous aider à, peut-être, enfin pour un certain nombre d'entre nous, à nous sentir un peu moins seuls quand on commençait à prendre ces positions. Et puis d'autres ont suivi, l'UFC l'a fait, l'UNAF je crois aussi, et d'autres, et beaucoup d'autres, ce qui me donne à penser de façon plutôt optimiste aujourd'hui que quelle que soit l'intensité de la croisade qui est opposé à ces idées, je crois que le rapport des forces commence à s'inverser et qu'au fond, nous avons quelques solides raisons d'espérer. Alors, il y a devant nous un certain nombre d'échéances, on les a rappelées, donc je ne vais pas le faire à mon tour, mais c'est vrai que là, d'abord, il y a un colloque au Sénat, je vous invite à suivre, là, très prochainement, qui est organisé par le Forum des droits sur l'Internet, qui sera l'une des premières discussion publique après l'adoption de la charte entre le gouvernement et les fournisseurs d'accès et un certain nombre d'autres acteurs. Et puis la loi sur transposant la directive européenne sur les droits d'auteur, beaucoup l'ont rappelé, je ne le ferai pas à mon tour, mais soyez certains en tout cas que nous serons un certain nombre de parlementaires de différents groupes à saisir l'occasion et à saisir cette tribune pour porter les idées que nous avons mis au débat aujourd'hui. Si nous le faisons avec beaucoup de détermination, c'est pas seulement parce que la révolution numérique déstabilise des modèles et qu'il faut en reconstruire d'autres. Ça pourrait suffire au fond à justifier l'engagement de beaucoup d'entre nous. Si nous le faisons, c'est parce que nous pensons, et ça a été dit aussi, et pour ma part, je pense qu'il faut être capable de faire cet aller-retour entre ce qui relève des principes politiques essentiels, et puis ce qui relève de l'organisation de la société. Je crois que le débat que nous avons évoqué aujourd'hui, il pose quelques-unes des questions essentielles dans la République. Et c'est pour ça aussi, pour ma part, qu'il y a maintenant quelques années, je me suis engagé dans ce débat. La question des libertés, c'est évident, que ce soit les libertés par rapport à la surveillance du réseau ou les libertés par rapport aux droits des consommateurs, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure. L'égalité d'accès à la culture, il est évident que renoncer à utiliser les potentiels du réseau pour favoriser l'accès à la culture, la diversité culturelle, notamment en matière musicale, ça me paraîtrait être un choix, une orientation politique tout à fait scandaleuse. On voit que les questions que nous avons débattues mettent en jeu, et c'était une question politique essentielle également, le partage entre ce qui relève de la sphère privée, ce qui relève du marché, et troisièmement, ce qui relève de l'intervention publique. Tout à l'heure, vous disiez, au fond, on va arriver vers des systèmes de location, etc. Bon, je dirais, c'est bien sûr pas le seul modèle qui va se déployer. Il va y avoir pluralité de modèles. Et je crois qu'au fond, il faut peut-être retirer ce que je retire pour ma part de ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que on va voir cohabiter pendant longtemps un certain nombre d'usages. Et donc, il faut arriver à respecter la pluralité des modèles. Oui, le CD va continuer, et sans doute pendant des années, voire des décennies, même si c'est un produit menacé dont la part de marché va se réduire. Oui, la vente de musique en ligne va se déployer massivement. Après un très gros retard à l'allumage, les plateformes de vente légale arrivent. et le temps qui a été passé à faire des guérillas juridiques ou à inventer des mesures techniques de protection pour protéger les disques, on aurait sans doute dû les passer du côté des entreprises de ce secteur à créer une réponse sur le marché. Et effectivement, moi j'ai le souvenir d'auditions à l'Assemblée nationale il y a 5 ou 6 ans d'un certain nombre d'organismes professionnels qui venaient nous demander de faire des lois, déjà de faire des lois répressives. Alors on avait la majorité à ce moment-là, mais bon, on n'a pas souhaité le faire pour autant. Le temps passé à ces guérillas juridiques aurait pu être passé à adapter en effet les industries culturelles à ce que doivent être aujourd'hui des ventes de services plutôt que des ventes de produits. Ça a été très bien dit, notamment par Lipietz ce matin. Et puis, il y a de nouveaux modèles fondés sur l'échange, et c'est ces modèles-là que beaucoup ici défendent. Pour ma part, je ne conçois pas ces modèles d'échange sans l'invention de nouvelles formes de rémunération. Et je crois que le deal, le contrat, il est à passer sur ce terrain-là. On ne peut pas imaginer véritablement la légalisation du peer-to-peer ou d'autres formes d'échange. Et je pense avant tout à la musique en ce moment, parce que sur les questions du cinéma, des textes littéraires, textes de presse, les problématiques sont parfois d'une autre nature et on les a peu évoquées aujourd'hui. Donc on parle avant tout aujourd'hui de la musique, qui est, comme l'écrivait récemment Denis Oliven, le patron de la FNAC, la ligne de front. Simplement, provisoirement au moins, on n'est pas tout à fait du même côté de cette ligne avec Denis Oliven, mais peut-être que là aussi, l'idée de cohabitation des modèles fera son chemin. La question des nouvelles formes de rémunération, elle est tout à fait essentielle. L'ADAMI a mis une proposition en débat, ça n'est pas la seule, mais elle a le mérite d'exister, il en faut sans doute d'autres. Dans l'appel qui a été diffusé à la veille de ce colloque, un peu comme trame d'une possible position politique, nous avons insisté avec Ludovic Penet sur un certain nombre de points. Sur la légalisation du peer-to-peer, je le redis, à condition de construire les conditions d'une rémunération juste. Sur la nécessité également de bien identifier l'impact de la révolution numérique sur les secteurs traditionnels, parce qu'après tout, et là je rejoins ce que disait les représentants de la Ligue au débit dans un autre moment de nos discussions. C'est vrai que s'il n'y avait pas de préjudice, pourquoi faudrait-il une compensation? Donc, bon, on peut entendre ces questions. La seule façon d'y répondre, c'est qu'il y ait des lieux indépendants, je souligne trois fois, des lieux indépendants où on arrive à avoir ces débats, où on mesure les évolutions, on mesure les préjudices et où on essaye de construire les conditions de ces nouvelles formes de rémunération sur des bases justes et équitables. Et enfin, et ça me paraît pas tout à fait inutile, nous avons demandé également, à la demande de plusieurs d'entre vous, qu'il y ait un moratoire sur les poursuites. On nous annonce pour l'automne des procès par centaines. Je souhaiterais pour ma part que ce soit simplement une rumeur infondée, mais on nous annonce des procès par centaines contre des internautes procédant au téléchargement, à un moment où la responsabilité de l'État, c'est bien de créer les conditions d'un débat public sur ces questions, procéder à des identifications, à des perquisitions, à des procès-verbaux, visant donc à criminaliser progressivement ce qui est aujourd'hui la pratique de masse de millions de Français, d'ailleurs de toute génération, me paraîtrait aller vraiment au contraire de ce que doit être la responsabilité politique. Et puis, il y a aussi une nécessité évidente qui est d'interpeller l'Union européenne. On ne fera pas le paradis numérique dans un seul pays, c'est évident. Et donc, l'interpellation de l'Union européenne est essentielle. On le sait aujourd'hui, nous allons être invités à transposer une directive européenne vieille de quelques années, elle-même prolongement d'un accord international de 4 ans plus ancien. On voit bien comment le temps de l'Internet ou le temps de la culture, des usages culturels n'est pas du tout le temps de la politique, encore plus dans ces différents niveaux, niveau européen, niveau de l'OMPI. Donc on a la nécessité aussi, il faut se saisir du débat qui précède la transposition de la directive pour le faire. Au fond, il faut dès maintenant sans doute remettre en chantier une nouvelle réflexion européenne, un livre blanc ou un livre vert, peu importe, mais qui repose ces questions à la lumière des mutations technologiques qui sont intervenues, qui ont, c'est vrai, chacun le reconnaît, déstabilisé les modèles traditionnels, sans pour autant qu'on ait pris la peine véritablement et de façon collective et négociée de construire des modèles alternatifs. Alors, devant cette croisade, je crois qu'il ne faut pas répondre par une contre-croisade, mais certainement répondre par une coalition qui mette en œuvre véritablement l'intérêt général, une coalition qui prévienne les dérives. Alors, je n'invite pas aujourd'hui à... encore une fois, je ne vous invite pas à faire le serment du jeu de paume, mais pour autant, je pense que nous devons ensemble travailler à créer de façon tout à fait pragmatique, très sereine mais très déterminée, les conditions de légalisation du peer-to-peer. C'est en tout cas pour ma part l'un des combats politiques et culturels qui me paraissent tout à fait majeurs pour notre époque. Merci.
Juste quelques mots pour me remercier à votre tour d'être venu aujourd'hui et d'avoir participé à ce débat. Je vous indiquerai par email où vous pourrez trouver les différents articles ou transcriptions des interventions. Je vous inviterai également au prochain rendez-vous que nous allons organiser. D'ici peu, nous allons rencontrer le SNEP. Ce sera encore un moment de discussion, d'échange. Nous allons rencontrer le SNEP à sa demande, oui, je le précise. Nous allons également bientôt organiser, ce sera probablement en octobre, une rencontre avec Mélanie Dulon de René, qui est la coordinatrice française de l'adaptation des licences Creative Commons, et qui nous parlera de tout le travail de transposition, des différents problèmes qui se sont posés, différentes solutions qui ont été adoptées. Ça nous permettra à nouveau de nous replacer dans une perspective d'une solution internationale aux problèmes que nous avons pour pouvoir légaliser et encadrer ce type d'échange. Je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une bonne soirée.